Et j'aimerais saluer et remercier notre commanditaire CM Textile qui commandite Habs Radio depuis le début de la saison. Et c'est un commanditaire, c'est quelqu'un que je connais depuis fort longtemps, qui était commanditaire quand j'étais à la radio anglophone. Et dès le moment que j'ai fait le saut pour venir ici, ils ont dit, t'es là, on s'en vient aussi. Donc merci beaucoup, puis salutations à Peter Auger ce matin. Et merci beaucoup, Peter, pour ton soutien et ton support. Denis Gauthier, tous les mardis et tous les jeudis, comment ça va?
Ça va bien, Tony. Salut, Alex.
Salut, mon ami.
Salut, Denis.
Le but de la victoire hier, Oilers-Vegas, avec toute l'attaque des Oilers, on n'aurait jamais cru à ça, mais ils n'avaient pas marqué de but après 60 minutes de temps réglementaire, puis en prolongation.
Voilà, Paul Cousin qui remet derrière maintenant. Ça revient. Un tir de Darnell Nurse. La rondelle est libre dans le demi-cercle. L'intervention et le but! Kasperi Kapanen qui pousse la rondelle derrière le gardien. Les Oilers qui éliminent les Golden Knights de Vegas.
Le grand Denis Cazavant sur les ondes de TVA Sport. Denis, les Oilers, là c'est sérieux. Puis j'en ai parlé environ 5 ou 6 minutes. J'ai dit là c'est sérieux. Je parle de quoi? Les Oilers ont appris à gagner des matchs 1-0. Puis c'est pas tous les matchs que tu vas gagner dans les séries 5-3, 6-2, 5-4, 6-4. Il faut que tu sois capable de gagner des matchs 1-0 comme les Panthers ont été capables de gagner le 6e et 7e match de la finale l'année passée. Il n'y a pas beaucoup de buts qui sont marqués. Ils ont gagné des matchs serrés. Avec cette victoire-là des Oilers 1-0 hier, puis après avoir accordé seulement 24 lancés et accordé seulement 23 lancés le match avant, là, c'est sérieux, Denis. Là, ils ont appris à jouer en série.
Il n'y a personne qui gagne une Coupe Stanley et confortable, Tony. Tu sais, des fois, il faut que tu sortes de ta zone de confort pour arriver à la prochaine étape. C'est une équipe qui était pas bien balancée offensivement, mais qui avait les canons pour se sortir de bien des trous dans la saison régulière, puis peut-être dans les premières rondes de séries éliminatoires. Mais cette équipe-là est différente. Puis t'écoutes les points de presse de Connor McDavid, t'écoutes les points de presse des joueurs après le match de Oilers Edmonton. Cette équipe-là, par la façon qu'ils jouent, sont en mission cette année. Il y a quelque chose de différent de eux. Puis tu regardes la façon dont ils ont disposé des Golden Knights de Vegas dans cette série-là. Si je ne me trompe pas, c'est seulement 3 buts de la part de Drysdale et McDavid dans cette série-là. C'est la profondeur de l'équipe qui a, soir après soir, fait la différence. On a gagné avec la défensive, on a gagné avec la profondeur. Puis dans le moment le plus important, on l'a gardé avec un gardien de but, Skinner, sur qui on a lancé plusieurs critiques et on a douté énormément. Puis, pour vrai, à mon sens, avec raison, parce que c'est un gardien de but qui a beaucoup de talent, avait un plafond très élevé, très athlétique, excellent gabarit. C'est un compétiteur, mais beaucoup d'inconstance dans son jeu, mais dans le moment le plus important, il s'est levé. Fait que cette équipe-là, présentement, donne l'impression qu'elle a appris des récentes défaites tard en séries éliminatoires, en finale de Coupe Stanley, puis est en mission de le fameux dicton, faut apprendre à perdre avant de gagner. T'as l'impression que c'est peut-être ce qui est en train d'arriver avec les Oilers.
Puis, je veux dire que quand ils sont allés chercher Evander Kane, il y a quelques années de ça, c'est Ken Holland qui avait fait cette transaction-là. J'étais pas d'accord parce que, écoute, en tout cas, le gars, il n'a pas toujours eu le meilleur comportement, Evander Kane, mais depuis son retour au jeu, là, tu vois, là, il amène un aspect physique à cette équipe-là, là, tant recherché.
Oui, puis, tu sais, la vérité, Tony, là, c'est que des joueurs, tu gagnes pas la Coupe Stanley juste avec des curés. Okay? Ça, c'est rare les équipes de Coupe cette année que tu regardes et que c'est 20 ou 23, 24, 25 bons soldats qui disent rien, qui ont le sourire au lèvres tous les jours. Ça t'en prend des caractères différents, ça te prend des personnalités différentes. L'important, quand tu prends la décision de rentrer un joueur comme Evander Kane, c'est que tu es confiant que ton leadership est bon et capable de le maîtriser et de l'encadrer. Puis ça, peut-être qu'au départ, on pensait que le leadership était là, puis qu'on se disait que McDavid et compagnie vont être capables. Peut-être que McDavid n'était pas rendu à ce point-là encore dans sa maturité, dans son leadership. Avec ses récentes défaites, les saisons récentes, j'ai l'impression qu'on a réussi à faire comprendre plusieurs choses à Kane. C'est un gars qui, on lui enlèvera jamais sa personnalité complètement. On va être capable de, t'sais, de le diriger, de le guider, de l'encadrer. Mais c'est un gars que tu veux qui joue toujours sur la limite également parce que c'est là qu'il est à son meilleur. C'est là qui fait en sorte que tu es capable de sortir le meilleur de son jeu physique, de sa personnalité. Puis c'est un gars qui a du talent, puis capable de s'imposer devant le filet adverse, d'amener des rondelles au filet, capable de déranger, jouer physique, capable de jeter les gants au besoin. C'est un joueur qui est important dans le casse-tête des Oilers d'Edmonton. Puis, tu sais, même s'il a raté toute la saison à cause d'une blessure, arrive en série éliminatoire, puis déjà a son impact. À différentes façons, des fois c'est sur la feuille de pointage. Hier, tu parles du jeu physique, c'est 7 mises en échec. Il est bien épaulé par un gars comme Hyman qui en a 13 lui-même. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça, mais pour moi, ça est en train de s'avérer une excellente acquisition, même si des fois, peut amener un petit côté qui va distraire le groupe, mais je pense que le leadership est assez fort maintenant.
Y a un auditeur qui vient d'envoyer un texto que je trouve très intéressant. C'est Elliot qui dit: Logan Mailloux peut-il devenir un Evan Bouchard? Evan Bouchard va chercher beaucoup de points, je comprends. Là, il joue dans la même équipe que McDavid et Draisaitl. Mais je comprends son point. Evan Bouchard a un bombe de la pointe. Logan Mailloux a un bombe de la pointe. Evan Bouchard a des lacunes défensives. Logan Mailloux aussi. Evan Bouchard a des problèmes de lecture. Par contre, on voit nettement, depuis le début des séries éliminatoires, un Evan Bouchard beaucoup, beaucoup amélioré vis-à-vis l'année passée.
Ouais, 100%. C'est un gars qui est engagé au succès de son équipe présentement. C'est un gars qui probablement a reconnu ses torts, reconnu ses lacunes dans son jeu défensif et l'importance qu'il avait dans plusieurs facettes de jeu, mais on dirait que sa lacune est un boulet tellement important que on avait de la difficulté à apprécier son jeu offensif parce qu'il nous coûtait plus de choses défensivement. Cette saison, ça semble avoir une nette amélioration. Je pense que c'est l'effet de groupe aussi. Je pense que Chris Knobloch, épaulé par Paul Coffey, qui est l'entraîneur des défenseurs là-bas présentement, ont trouvé une belle recette pour aller sortir le meilleur de plusieurs joueurs là à Edmonton. Et Evan Bouchard, pour moi, c'est certainement un. C'est un joueur qui, on apprécie certainement son jeu présentement versus ce qu'il nous donnait avant. C'est un gars, on le sait très bien, qui est dangereux, est un game breaker à l'occasion pour un défenseur à marquer de gros buts en série éliminatoire jusqu'ici à présent. Mais de faire partie d'un groupe qui est capable de défendre, qui est capable de bloquer des tirs, qui est capable de se sacrifier puis passer au bien de l'équipe avant ses statistiques offensives personnelles, ça pour moi, c'est un gros plus pour lui et plusieurs autres aussi dans cette équipe-là.
Écoute, il faut qu'on parle de Stan Bowman parce que, évidemment, il a la recette pour gagner des Coupes Stanley. Là. Il l'a faite avec les Blackhawks de Chicago. Mais il est allé chercher quelques joueurs. Là. Jake Walman, OK, c'est un joueur de troisième paire de défense, mais il fait très, très bien ça.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup l'ajout de Trent Frederick. Là. C'est un gars, là, quatrième trio, papier sablé, là, que toutes les équipes ont besoin d'un joueur comme lui sur le quatrième trio.
Oui, 100%. Puis, tu sais, on regarde les équipes comme les équipes qui ont du succès, les Panthers de la Floride récemment, la Lightning de Tampa Bay avant eux, lorsque tu sais, cette série de finale et de gagnants de Coupe Stanley, tu regardes la profondeur de ces équipes-là. On était bourré de talent d'attaque, mais la façon de l'identité dont ton troisième, quatrième trio t'es bâti. Je pense que on a appris de ça, puis des succès de ces équipes-là. Puis je pense que c'est la façon dont on a voulu bâtir ou changer, modifier les Oilers d'Edmonton qui était beaucoup axé sur le talent, puis des anciens premiers choix au total. Tu regardes, Frederick, pour moi, cette année, est une belle addition. On a parlé d'Evander Kane, on a parlé des joueurs comme Zach Hyman qui a transformé aussi en quelque sorte plus dans le top 6, mais dans l'identité puis dans la culture de cette organisation-là. Connor Brown, un gros bonhomme aussi. Tu as des joueurs qui ont des personnalités différentes. Corey Perry, son ajout aussi l'an passé, a eu un impact. Puis tu sais, ces joueurs, tu as l'impression qu'ils vieillissent pas, qui joue toujours le même style, puis qui, depuis plusieurs années, amène son lot de succès à l'équipe partout où il passe. Alors, pour moi, là, ça, c'est la compréhension de où la ligue elle est, où elle est, où elle va, et comment on fait pour avoir du succès. Puis chaque directeur général, présentement, prend des notes parce que ça semble être de plus en plus la tendance d'aller du côté un peu plus imposant physiquement et un côté robustesse avec un certain talent dans ton troisième, quatrième trio.
T'en souviens qu'est-ce que les Canadiens ont eu en retour de Brett Kulak? Quand ils l'ont échangé le 21 mars 2022, ils ont eu le défenseur William Lagesson, qui n'a pas duré long feu, un choix de 7e ronde en 2024 et un choix de 2e ronde en 2022. Avec ce choix-là, le Canadien a repêché Lane Hudson. Donc, évidemment, ça a été une très bonne transaction pour le Canadien, mais la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est parce que les meilleures transactions, c'est quand il y a deux équipes qui gagnent.
Exact.
Brett Kulak, là, il joue première paire avec Bouchard. Puis, il me semble qu'il a joué 25 minutes hier soir. Là.
Ouais, juste un brin en dessous de 25 minutes, 24-50 hier. Puis,
il joue du gros hockey, là, dans ses limites, simple.
Ouais.
Il joue très bien, là.
C'est l'effet de groupe. Puis Kulak, pour vrai, si on s'en rappelle, là, c'était pas un vilain défenseur avec les Canadiens. Les circonstances étaient différentes. Puis moi, j'avais apprécié son travail. C'était pas un gars qui était ultra dynamique, mais était stable, avait une certaine fiabilité dans son jeu, prenait pas trop de risques. Puis c'est un défenseur avec une belle mobilité. Il arrive là-bas à Edmonton, bien entouré, bien encadré. A gagné du galon au fil du temps depuis qu'il est arrivé là. Et là, la confiance. T'sais, puis Kulak, faut s'en rappeler, là, c'est concours de circonstances, là, lui individuellement, de jouer avec Evan Bouchard présentement, mais tous les trios et tous les duos de défenseurs au cours des deux derniers matchs ont changé chez les Oilers d'Edmonton. Donc, Kulak s'est retrouvé avec Evan Bouchard dans un rôle un peu différent, mais c'est peut-être le genre de joueur où apporter un peu de constance et de stabilité, de fiabilité avec un Evan Bouchard, peut-être qu'il avait besoin de ce genre de défenseur-là qui est capable de le suivre au niveau mobilité, est capable de jouer avec la rondelle et de faire des jeux avec lui dans les transitions, dans les sorties d'onde, mais était un peu plus responsable défensivement. Fait que c'est un bon balance entre les deux. Ça semble être un bon mix d'avoir une bonne chimie, mais t'sais, Chris Knobloch a eu du flair, puis peut-être un peu de courage aussi. On va dire de même parce qu'il n'était pas satisfait après le match numéro 3 des Oilers. Touché à embarquer, on se souviendra, Draisaitl se retrouvait avec Podkolzin et Kapanen avec deux ailiers pratiquement de quatrième trio pour avoir un affrontement contre Jack Eichel qui a réussi à les blanchir une première fois. Se retrouvait à garder les mêmes trios, les mêmes duos hier, même résultat. Donc pour moi, là, on n'a pas peur de changer, on n'a pas peur de brosser à ça. Un gars comme Kulak en a très bien profité puis a saisi l'opportunité qui s'est présentée devant lui.
OK, Denis, si je te dis 13, tu penses à quoi?
Bon, je sais où tu t'en vas, mais...
Ben oui, c'est ça, tu sais que ça, c'est le nombre de mises en échec de Zach Hyman hier soir. Là. Mm-hmm. 13 mises en échec, wow! C'était un numéro... On se souvient pas la dernière fois que j'ai entendu ce numéro-là pour des mises en échec, là?
Je suis pas sûr que j'ai déjà vu ça, puis pourtant c'est une statistique que je regarde tout le temps parce que c'est dans ma personnalité, c'est dans mon ADN.
Oui.
C'est la première fois que je vois un total aussi élevé. Bon, on est allé en prolongation pour un certain temps, donc pour évidemment ça a un impact sur le résultat final, mais tu sais, pour moi, au-delà de ça, c'est l'engagement. Je regarde la façon dont les Oilers ont joué cette saison, certaines performances individuelles. Zach Hyman a eu la moitié des buts cette saison qu'il a eu l'année passée, je ne me trompe pas. Parti de 54 l'an passé à 27 cette année. A joué la majorité des matchs de son équipe quand même. C'est un gars qui a l'impression que, sans dire qu'on... le premier rang dans la conférence, le premier rang n'était pas disponible cette année. On s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait d'autres bons clubs autour de lui. Fait que j'ai l'impression qu'on s'est... C'est pas dire ménagé cette année... Mais on avait trouvé un certain confort dans une maturité, dans un style de jeu qui nous permettait de gagner, puis de pas s'épuiser, puis peut-être d'arriver avec le focus en séminatoire, de gagner au bon moment, puis dans la bonne partie de la saison, disons-le comme ça. Puis je regarde Zach Hyman jouer depuis le début des séries. Il a levé, comme bien d'autres, mais il a levé son jeu d'un cran au niveau physique de façon tellement, tellement impressionnante. Au niveau physique. Parce que c'est un gars, on sait, il a du talent, c'est un gars qui aime se présenter dans la peinture bleue, c'est un prendre des retours, déranger, terminer des mises en échec, mais là, c'est d'un tout autre niveau, Zach Hyman, pour moi, qu'il fait là versus ce qu'il fait dans la saison régulière. Puis, tu sais, on parle d'un gars qui a une identité qui est très claire, qui la connaît, mais qui réalise que tu peux pas jouer de cette façon-là pendant 82 matchs dans la saison, puis être aussi efficace pendant un potentiel de 28 en séries éliminatoires. Mais de le faire au bon moment comme ça, pour moi, totalement impressionnant, surtout la performance de 13 hier.
Et là, Denis, on voit aussi l'importance d'y aller loin dans les séries, parce que tu vois que les Oilers ont appris beaucoup l'an passé. Tu le vois, là. Puis Hyman, il a appris beaucoup. McDavid a appris beaucoup. Draisaitl a appris beaucoup. Tu le vois, là. Skinner, il a appris beaucoup. Tu vois l'importance.
Tu vois l'importance, puis, tu sais, je le remarque surtout dans deux choses. Je le remarque dans l'attitude de Connor McDavid, qui se fout carrément, qui marque des buts, puis qui joue d'une façon quand même très, très intense, très responsable. Les points de presse, il est all business. Il a une attitude business, il défend ses joueurs, mais tu sais, quand il répond aux questions, il a une attitude différente, il a une approche différente. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas pour gagner une Coupe Stanley cette année parce qu'on va probablement affronter Dallas ou possiblement affronter Dallas à la prochaine ronde. Ça va être un duel difficile, mais c'est vraiment un autre niveau. Fait que je le remarque dans lui puis je le remarque dans Draisaitl. La réponse qu'il a eue après les changements de trio au dernier match, de se le mettre avec un duo d'ailier de quatrième trio pratiquement, puis de répondre de la façon dont il a répondu, de jouer avec intensité, de jouer de façon responsable. Et la réponse qu'il avait après s'être rendu coupable d'un mauvais revirement qui a coûté un but dans la défaite le match avant, de répondre après avoir fait dévier la rondelle dans son propre filet sur le but en prolongation. Puis de répondre de cette façon-là, on change les trios, on met deux ailiers de quatrième trio, puis tu réponds de la façon dont tu réponds, c'est une équipe qui a maturé. C'est une équipe qui, pour moi, ce sont des joueurs qui ont vécu beaucoup de moments négatifs, puis qui ont appris, puis qui se rendent ailleurs. Peut-être qu'il y a des gens à Toronto qui devraient réaliser qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans les moments négatifs, puis c'est encore temps de virer les choses de bord pour eux.
Denis, dernière question, là. Sidney Crosby, c'est un gagnant né, ça on le sait, là. Nathan MacKinnon aussi. Les deux ont gagné la Coupe Stanley. Alexander Ovechkin, ça a pris 14 ans avant qu'il gagne la Coupe. Il y a des joueurs là, qui devaient changer leur façon de jouer pour gagner la Coupe Stanley. Je pense à Steve Yzerman, je pense à Mike Modano, je pense à des grands joueurs, là, OK? Tout le monde, tu sais, les meilleurs joueurs à la fin, là, la plupart, là, ils ont réussi à trouver, tu sais, ils sont devenus des joueurs complets. Pour certains, plus vite que d'autres. Je te demande là, si tu penses que Austin Matthews sera en mesure d'amener son équipe loin dans les séries un jour.
Bonne question. Un jour, oui. Un jour, peut-être. Je suis pas convaincu, mais pas avec le noyau qu'il a présentement, qu'il est bâti. Moi, je trouve juste on l'a essayé trop souvent, puis le noyau, le Core Four qu'on a baptisé à Toronto là, avec Marner, puis Nylander, puis Tavares. Je pense que ce noyau-là n'a pas démontré qu'il avait l'étoffe de le faire, puis tu mets trop d'eux dans le même panier avec des joueurs qui sont similaires, qui ont les mêmes attributs au niveau du caractère, leadership, puis d'être capable d'amener son jeu ailleurs. Ça ne veut pas dire qui sont incapables, mais on a eu beaucoup d'essais. Puis pour moi, cette équipe-là, cette année, à Toronto, c'est la meilleure équipe qu'on a vue en 6, 7 ou 8 ans. Il y a mieux bâti pour les séries éliminatoires, puis ce noyau-là n'est pas capable. Je vais enlever Nylander de l'équation parce que lui a eu d'excellentes séries jusqu'à présent. Là. Mais je pense que Matthews a la capacité de le faire, a le talent pour le faire, mais je pense qu'il va falloir changer le noyau. On a peut-être l'opportunité de le faire cet été avec deux agents libres au Colo. Parmi les quatre, là, Tavares et Marner, peut-être d'aller changer l'identité de ce club-là en changeant le noyau un peu, mais je pense que Matthews, dans les bonnes circonstances, pourrait être capable de devenir un de ces joueurs-là aussi.
Merci beaucoup, Denis. On se parle. Bonne fin de semaine à toi, même si ça n'a pas commencé encore. On se parle de nouveau mardi. Quand on va se parler mardi, là,
ouais.
On va parler de quelles équipes qui ont gagné leur série.
Dallas, Caroline, ça va être Dallas, Edmonton la prochaine série pour moi et Caroline, Floride pour moi qui va jouer en finale d'association de l'Est.
À mardi, Denis.
Bye bye.
Merci.